Le retour de Radio X.
Avez-vous compris?
En vacances.
Radio X.
Je savais pas, Mélanie, que t'avais un côté pierre à feu en toi.
Ouais.
T'as du mordant dans ton T-bone.
Tellement bon.
Très content de le recevoir en studio. On adore entendre ses analyses. Mark Hamilton, comment ça va?
Hey, ça va bien, vous autres. Puis justement, Mel a fait penser qu'elle mange un steak de brontosaure.
Oui, hein, c'est ça.
Le temps, c'est,
ça.
Là, c'est vraiment l'allure de ça. Là, puis c'est copieux comme ça. En tout cas, protéines fixes pour ce soir, je pense que... Hein?
C'est réglé.
Tu vas te prendre ta dose de protéines, c'est bon.
On est gâtés.
Bel été, Marc, jusqu'à présent?
Ben écoute, des hauts et des bas, parce que je suis pas capable de prédire rien sur ce que je vais faire dans une semaine.
C'est bon, ça.
Tu dis, hey, cette semaine, il annonce beau. Tu pognes une journée, 60% de probabilité d'appui. Là, tu décides de rien faire. Ouais, là, tu te rends compte en fin de journée, j'aurais donc dû le faire, Colin.
Trop soleil.
Puis les meilleurs exemples, tu sais, je sors mes chars l'été. Puis là, bien souvent, j'aime pas ça me faire pogner puis me faire rincer, tu sais, puis c'est pas le fun. Là, tu dis, je la prendrai pas aujourd'hui. Comme une journée comme aujourd'hui, là. Tu sais, bon, je la prends-tu, je la prends-tu pas. Ben là, je l'ai pas pris. J'aurais donc dû la prendre. Hier, c'était pareil. Mais là, c'est rendu que prêt, pas prêt, j'y vais. Là. Tu peux plus dire, là, l'été avance, on est rendu mois d'août bientôt.
Ça même plus à rien de faire des bulletins météo.
Ben, écoute, c'est rendu. On se lève le matin et on dit, on se met le doigt dans les airs. Oh, il va faire beau aujourd'hui. Mm-hmm. C'est rendu, on guesse sur ce qu'on fait. Je te dirais, ça me rend un peu maussade parce que, écoute, au mois de juin dernier, je suis allé à Toronto.
OK.
Puis là, là-bas, j'ai dit, il fait donc bien chaud, il faisait 42, 43 degrés. Là, c'était insupportable. Là, j'avais hâte d'en venir au Québec. Puis là, j'arrive au Québec, mais là, il y a une différence entre 40 et 12, 13 degrés. Là, fait que j'aime mieux mieux entre les deux, mais pas de pluie. Puis. On dirait que, en tout cas, soit-on que le mois d'août puis le mois de septembre, généralement le mois de septembre, c'est un des rendus des plus beaux mois de l'année.
Ben oui, hein, toutes nos vacances sont décalées maintenant. La plupart des gens vont prendre des vacances la première fin de semaine du mois de septembre où c'est la fête du travail. On profite du long week-end, on part en vacances.
Puis c'est ça qui est plate. T'sais, les gens pensent plus vacances rendus au mois de septembre. Les écoles recommencent, les campings ferment. Puis, Caroline, c'est rendu là que c'est le fun, qu'on peut se fier sa température. Puis, il fait encore 20-25 degrés le jour. Le soir, c'est un petit peu plus frais, mais au moins, c'est fiable. T'sais, il a arrêté de pleuvoir. Puis, c'est un peu ça qui me rend cette année up and down par rapport à l'été actuel.
Ouais.
Une certaine époque,
tu vois, de planifier.
Dans un passé pas si lointain, mois d'août égale Expo Québec égale la fin de l'été, c'est la rentrée scolaire, puis ça commence à être frais. Là.
Là, on dirait qu'on a poussé ça d'un mois. Ce que tu dis là est rendu plus début octobre, curieusement. Puis il est rendu que le mois de mai est exécrable, puis le mois de juin, ben là, écoute, c'est la saison quasiment des pluies. Là. Fait que je m'en rappellerai tout le temps, sûrement que vous en rappelez. Le 24 juin l'année passée, en 2025, rappelez-vous, le show de la Saint-Jean était cancellé.
Il pleuvait
des tonnerres, il manquait d'électricité. Il a commencé à faire beau le 15 juillet l'année passée. Puis là, cette année, ben moi, juin, pas si pire. On a eu quoi? Une couple de belles fins de semaine jusqu'à maintenant, mais tu sais, c'est pas. Moi, j'étais un gars de construction présentement qui recommence lundi, puis je suis fâché, là.
Mettre à faire beau.
C'est ça.
En tout cas, il y a un truc pour moi qui fonctionne, tu sais, pour savoir s'il va vraiment pleuvoir, c'est les feuilles des arbres.
Les feuilles se tournent.
Si les feuilles sont à l'envers, il va. Pour vrai, jusqu'ici, en tout cas, ça fonctionne.
C'est pas le vent qui vire à l'envers, non?
Non, on voit vraiment les feuilles, sont vraiment comme plus.
Sont prêtes à. Recevoir.
C'est spécial, depuis que je suis petite, je surveille ça, puis ça fonctionne à chaque fois.
Un bon truc.
Moi, j'étais au camp de vacances, moi. J'avais justement là, 12, 13 ans, puis on m'avait appris ça. Ah, il va mouiller.
Oui, regarde, les feuilles des arbres vont mouiller.
Il va mouiller.
Ça ment pas, C'est une bonne prédiction.
Hey, fermons la parenthèse et parlons de science.
Ben oui, on est là pour ça.
Il y a beaucoup de sujets qu'on peut parler, mais j'ai le goût qu'on commence avec les bouteilles d'eau.
Mm-hmm.
Le microplastique dans les bouteilles d'eau, parce qu'on nous invite à récupérer. Il y a maintenant une consigne sur les bouteilles d'eau, mais souvent, je sais que Mélanie, à la maison, on se commande, nous autres, des caisses d'eau parce que tu fais pas confiance à l'eau du robinet, puis on est mieux de prendre avec des bouteilles d'eau.
Elle goûte pas bon, notre eau du robinet, puis une fois sur trois, elle est jaune. c'est l'enfer. C'est ça, ils font beaucoup de construction autour, puis ça atteint vraiment la qualité d'eau. Là. Non, je bois plus d'eau du robinet.
Mais l'eau du robinet est bonne, Marc.
Écoute, je vais vous expliquer un peu les nano et microplastiques, puis tu vas voir que t'as l'eau de la ville, même si elle sent le chlore, même si des fois elle est jaunâtre, il faut penser que la couleur de l'eau n'est pas un indice de potabilité de l'eau.
Non!
Donc, même si elle est jaunâtre un peu, ça veut pas dire qu'elle est pas potable.
Ah, puis j'ai déjà bu de l'eau bien, bien claire dans le bois, je l'ai regretté quelques jours plus tard.
Exactement,
là.
Donc il ne faut pas se fier aux apparences. La seule affaire que je recommande moins, quand vous êtes dans le bois ou vous buvez une eau, qu'elle soit trouble. Ça, je vous conseille pas de la boire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de charges dedans, qu'on sait pas trop c'est quoi, qui peut même être des bactéries. Mais la couleur de l'eau, qu'elle soit jaune, qu'elle soit rougeâtre, qu'elle sent un peu les eaux pourries, il y a rien là-dedans qui pourrait te dire « je peux pas la boire ». Même si tu dis « elle est dégueulasse ». Je te dirais, les eaux embouteillées, là, on parle de micro puis de nanoplastique, là, bien ça, ça devient un contaminant de plus en vogue, populaire. Écoutez, il y a 450 millions de tonnes de plastique produits annuellement sur la planète. Et environ, même pas 6 % de tout ça est récupéré. Fait que tout ce plastique-là, bien souvent, se ramasse où? Dans les dépotoirs, se ramasse bien souvent dans les pays où est-ce qu'il n'y a pas de réglementation de recyclage. Ça va dans les cours d'eau. Les plastiques se dégradent au soleil, s'oxydent, et ça crée des microplastiques qui se ramassent dans les cours d'eau. Puis on finit toujours par rentrer dans la chaîne alimentaire. On les consomme, mais ça cumule en dedans de nous. Mais tu levais une bonne question, Yannick, tantôt. Tu disais, qu'en est-il de nos fameuses bouteilles d'eau qu'on achète? Puis ouais, est-ce qu'il y en a des microplastiques là-dedans? Écoute, il y a beaucoup d'études, puis il y en a une qui était récente. Puis les microplastiques dans les bouteilles d'eau qu'on achète, c'est là qu'il y en a le plus qu'on peut avoir dans une journée. Il peut y avoir jusqu'à 200 300 000 particules de microplastiques qu'on ne voit pas. Et puis, garde, donne-moi la tienne, votre
affaire. Ouais, c'est ça, Mélanie, avec sa bouteille d'eau.
Quand vous prenez une bouteille de plastique, juste ce son-là, là, vient de dégager des centaines et des centaines de microplastiques.
C'est pour ça qu'ils disaient surtout pas ne surtout pas les réutiliser. Moi, ma mère les réutilisait tout le temps. Je disais, non, fais pas ça.
Exactement. C'est plus le plastique est mou, plus il a tendance à s'effriter à l'intérieur. Donc, plus on le frotte, plus on va dégager des micro-particules de plastique dans votre eau.
On s'en rend pas compte.
Et on s'en rend pas compte.
Mais est-ce que c'est dangereux pour nous? Est-ce que ça reste dans notre corps ou ça passe dans la piste puis ça ressort le lendemain puis c'est réglé?
J'ai vu des trucs à la télé, oui. Ça va dans le cerveau.
Les microplastiques, ça se divise en deux catégories. Ça se divise en microplastiques. Micro veut dire c'est pas si petit que ça. Autrement dit, ça va être des particules qui vont être de 100 micromètres à plus petit que 5 mm. Donc, c'est quasiment visible à l'œil nu. Eux autres, bien souvent, on va les digérer, ils vont s'en aller normalement, puis on va les éliminer. Mais ce qui me fait peur, c'est que ces microplastiques-là continuent à se dégrader et finissent en nanoplastiques. Nanoplastiques, c'est des particules plus petites que de 1 micron. Donc, c'est gros comme une bactérie, même plus petit fois parfois que de bactéries. Et c'est ça qui fait que ces nanoplastiques-là finissent par rentrer dans notre sang. Ils passent au travers de notre estomac, passent au travers de notre intestin, rentrent un peu comme un nutriment, mais ça n'en est pas un, et va se loger, va se bioaccumuler dans des micro-vaisseaux sanguins qui, eux, fait que ce nanoplastique-là va s'accumuler et créer éventuellement des obstructions. Et le fait que le corps est en contact avec un corps étranger, et on va finir par créer de l'inflammation, parce que c'est un corps étranger, ce nanoplastique-là, là. C'est pas un globule blanc. Et bien souvent, on se rend compte qu'il est de plus en plus logé au niveau cérébral. Et que ça crée de l'inflammation au niveau cérébral. Et cette inflammation-là va probablement être précurseur de maladies auto-immunitaires au niveau cerveau. Bon, on parle.
Tumeur, cancer,
mais même, exemple, être précurseur de l'Alzheimer, précurseur de certaines maladies comme le Parkinson, des maladies à venir qu'on ne connaît pas.
Même des problèmes de fertilité. J'ai vu des.
Oui, il y a des problèmes de fertilité
à cause de des nanoplastiques.
Qui s'accumulent un peu partout dans nos organes. Donc, il y a une bioaccumulation qui se fait de ça. Et. Au moment où on se parle, est-il trop tard? Est-ce que la question qu'il faut se poser, peut-on vivre sans plastique sur la planète présentement? C'est tout qu'un débat qu'il faut se poser. Il y en a tellement partout.
Même les biberons, en partant, le bébé naît, puis on le donne à boire dans des...
Les pires plastiques, c'est sûr que si vous avez une chance d'avoir une gourde qui est en verre ou une gourde à l'intérieur en acier inoxydable...
Sans BPA,
ou sans BPA. Oui, okay. Mais ça, ça reste quand même du plastique sans BPA. Okay.
C'est quoi ça, BPA?
Ben, c'est un contaminant qui est un peu précurseur des PFAS, autrement dit, qui sont des polluants éternels qui, bien souvent, se dégageaient du plastique et qu'on consommait, qui devenait comme un contaminant organique dans notre corps. Donc, qui c'était un autre produit chimique qu'on consomme sans s'en rendre compte, parce que le plastique, lui, veut pas, sans être vivant, il va continuer à se dégrader et dégager des substances, de sa dégradation. Puis là, c'est un genre de produit composé organique qui se ramassait dans l'eau. Donc, c'est comme un ingrédient qu'on a enlevé de la fabrication du plastique. Donc, on est moins en contact ou plus en contact. Mais, comme je vous disais, si vous avez un plastique qui est très rigide, très, très dur, épais, il va dégager moins de microplastique que lui que je t'ai fait entendre
la
tantôt.
La bouteille de tantôt.
Donc, plus le plastique est mou, plus il est léger, plus il va avoir tendance à se dégrader. Si un plastique fait face au soleil, vous prenez une bouteille d'eau, vous la laissez au soleil.
Ou dans
la voiture, la bouteille, elle a chaud, elle est au soleil. Les rayons ultraviolets vont créer une oxydation du plastique et va dégager des microplastiques dans votre eau que vous allez consommer. Donc, le problème, c'est ça. Fait que là, on n'est plus capable. Puis quelque chose aussi qui crée beaucoup de microplastiques, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on boit, mais qui s'en va quand même dans les cours d'eau, c'est quand on lave nos vêtements. Aujourd'hui, nos vêtements, c'est pas seulement du coton. C'est du polyester, c'est du nylon, des matières artificielles, des élastanes, puis bon, que c'est vous là. Mais quand on lave ça, quand on met ça dans la laveuse, il peut se créer de 300 000 à 700 000 particules de microplastique qui s'en vont dans les égouts. Juste le fait qu'on brasse nos vêtements, qui sont pas des fibres de coton. Les fibres de coton, on n'en parle pas, les fibres naturelles, la laine. Mais les fibres artificielles, c'est quoi? C'est fait avec du pétrole, c'est fait avec des dérivés de plastique, donc fait de microplastique. Donc, à chaque fois qu'on va laver des produits artificiels, donc du moins du linge pas fait à partir de coton, on va envoyer dans l'eau, qui va se ramasser tôt ou tard dans les océans, parce qu'on ne filtre pas les nanoplastiques dans les centres d'épuration d'eau. Donc, ça crée encore une bioaccumulation qui s'en va dans les poissons, que la végétation marine va prendre et qui, tôt ou tard, peut se ramasser sur notre assiette d'une manière ou d'une autre. Donc, les microplastiques, c'est un mal nécessaire. Je dirais que...
Mais probablement qu'avec la nature qui évolue de génération en génération, on va probablement, le corps humain, s'adapter à ça parce que ça fait partie de nos vies maintenant.
J'en doute.
T'en doutes, hein?
Un peu. Moi, je vois les microplastiques à une maladie à long terme. Un peu comme quand on a commencé à fumer avant les années 50, où est-ce qu'il fallait fumer pour être un homme,
cool.
Là, si tu veux, cool.
Ça revient à moi, tranquillement.
On s'est rendu compte plus tard que la cigarette n'était pas bon pour la santé. Donc, bien souvent, tous ces contaminants-là qu'on commence à analyser, qui commencent à s'accumuler, ça fait pas si longtemps que ça que les plastiques existent, là, ça fait à peu près 50 ans. Rappelez-vous, quand on était jeune, tout était en métal, tout était en vitre. Il n'y avait rien. Hein? Les bouteilles, ouais. Là, c'était des bouteilles en vitre qu'on allait...
Ben, les plats, on parle de bouteilles, mais les plats dans lesquels on fait chauffer des trucs au micro-ondes, tout ça, ça comprend aussi des microparticules.
Exactement. Donc, tout ce qui est à base, je dirais, de plastique de toutes ses formes, peu ou tôt ou tard, peut en transmettre dans nos aliments, peut en transmettre dans ce qu'on boit. Et on est entouré de ça. Et ces contaminants-là, c'est quand même récent. On s'entend. Tout ce qu'on comprend qui est à base de plastique, ça fait moins de 50 ans que ça existe.
Qu'on ne sait pas ce que ça fait à long terme.
On ne sait pas ce que ça fait.
Comme la vapoteuse, on ne sait pas.
Exactement. Les fameuses vapoteuses, ça, je sais que ça crée des bronchiolites, là, du moins des inflammations respiratoires. Mais à quelque part, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'on va se créer des maladies que présentement on banalise? On dit, il n'y a personne de mort de ça présentement. Mais dans 5, 10, 15 ans, on va avoir suffisamment de données. Là, on va dire, oups, c'est un peu, il y a une problématique associée à ça. Donc, je dirais que, juste pour faire de parallèle, mais scientifiquement parlant, depuis que le pétrole existe, donc ça fait pas si longtemps que ça, là, depuis les années 1900, là, lorsqu'on a commencé à utiliser le pétrole, mais le pétrole ne sert pas seulement qu'à faire de l'essence à mettre dans nos voitures, mais tout ce qui est synthétique, tout ce qui est plastique, polyester, plein de composants, caoutchouc, goudron, c'est le pétrole et comment que ça amène... Et le pétrole a amené la pollution sous toutes ses formes, pollution atmosphérique, puis même la pollution en dedans de nous aussi, d'une certaine manière, par sa biodégradation. Donc, le pétrole a amené quand même une nouvelle polémique au niveau de la santé et de la pollution, chose qu'on n'avait pas avant. Les seules pollutions qu'on avait avant le pétrole sur la planète, c'était les feux de forêt. Avant ça, le pétrole, on n'en générait pas parce qu'on se biodégrade, on mangeait pas artificiel, on s'habillait avec des peaux d'animaux.
C'était juste du bois qui brûlait.
Juste du bois qui brûlait. Donc, la seule contamination qu'on avait, qui était perceptible à l'époque, c'était les volcans, puis c'était les feux de forêt. Aujourd'hui, ces feux de forêt, oui, continuent, mais c'est pas ça la majorité.
Non, c'est de la pollution, puis nos océans débordent de plastique.
Il y a des montagnes de plastique qui sont perceptibles dans certains États, surtout si on va dans des pays comme les Philippines, l'Inde, ces choses-là, où est-ce qu'on en produit beaucoup et on n'est pas capable de les disposer correctement.
Pis j'imagine qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est biodégradable, plus c'est biodégradable, plus ça doit dégrader des microparticules, là, microplastiques?
Ça dépend. Qui dit biodégradable, c'est quelque chose dont les chaînes sont courtes, donc qui va être facilement assimilable par des bactéries, par les moisissures. Or, les plastiques, À moins que ce soit un plastique fait à partir de bambou ou plastique fait à partir de matière végétale, on sait
oui,
que...
on en voit de plus en plus des ustensiles en plastique faits à partir de patates, de pleures, de pommes de terre.
Il a réussi à aller chercher les polymères naturels pour pouvoir... Les meilleures affaires, si vous voyez bien souvent, des ustensiles en bambou, des choses comme ça. Donc, des plastiques qui sont... Je ne sais pas quelle est la recette, mais issus de matériel naturel. Prenez même, prenez juste comme exemple les cuirs qu'on a dans les automobiles maintenant. C'est tous des cuirs, bien souvent, qu'on appelle vegan. Des cuirs synthétiques à partir de plures d'ananas, puis ils font du cuir avec ça. Donc, c'est sûr que oui, c'est plus facilement biodégradable que ce qu'on va retrouver, exemple, dans les fibres synthétiques en tant que telles. Donc, c'est sûr qu'il faut penser à ça dans le futur parce que la biodégradation, il faut que ce soit fait à partir de quelque chose qui a été fait pas par l'être humain. Autrement dit, naturel. Donc, quand on prend du pétrole, on fait du plastique, il devient quasi plus biodégradable. Donc, autrement dit, c'est biodégradable dans 100 ans, dans 200 ans, puis il va se dégrader en microparticules qui, avant d'être 100% disparu, il va nous avoir infectés autrement.
Non, le dommage est déjà fait. Là.
Exact.
Il est comme déjà trop tard.
On est déjà sur du temps emprunté d'une certaine manière pour récupérer tout ce qu'on a pollué.
Autre sujet que tu voulais jaser, on a encore du temps. Il y a la saison des tiques. Il faut être prudent lorsqu'on va marcher en forêt. Nous, quand on est allé en camping, c'était des bas longs, des pantalons longs, même avec les animaux, surtout les traitements anti-tiques, parce que ça peut causer des dommages irréversibles. Bien, il y a une nouvelle sorte de tique maintenant.
Écoute, c'était un fait divers que j'ai vu cette semaine. J'ai dit, Caroline, on n'est pas déjà rendu là.
Ça finit plus de finir.
Ça finit plus de finir. Les changements climatiques font en sorte que de plus en plus de bébites qu'on trouve au sol commencent à migrer chez nous, tranquillement, pas vite, parce qu'on a moins d'hiver, on a moins torride, le temps est plus tempéré. Comme tu dis, là, on est rendu qu'au mois d'octobre, on a encore des températures d'été. Et ce décalage-là fait en sorte qu'il y a certaines bébites, telles la tique étoilée d'Amérique, qui est une petite tique qui, lorsque elle, contrairement à ceux qui donnent comme les tiques noires en tant que chose-là, qui peuvent donner la maladie de Lyme, pas là, c'est des tiques qui, eux, vont, dans leur salive, ils vont nous piquer, ils vont émettre un sucre qui s'appelle du galactose 1,3-galactose. Ce sucre-là, bien souvent, se retrouve naturellement dans le sang animal, mais il ne se retrouve pas, ce sucre-là, dans le sang humain. Et le galactose 1,3-galactose, quand le système immunitaire combat ce sucre-là par des anticorps spécifiques IgE, autrement dit, va créer une allergie qui fait en sorte que lorsqu'on va consommer de la viande, peu importe soit du porc ou du bœuf, ou même de plus porc ou du bœuf, on peut faire des chocs anaphylactiques, donc une allergie sévère.
Donc, tu deviens allergique à la viande.
À la viande.
Parce que tu t'es fait piquer par une tique.
Exactement. Mmh. Présentement, il n'y a pas de quoi capoter. Il n'y a que des petits cas, mais qui n'a pas créé cette allergie-là. Parce qu'il faut se faire piquer quelques fois. Donc, c'est pas une piqûre qui crée automatiquement cette allergie-là.
Il faut vraiment que tu sois malchanceux.
Il faut que tu sois chanceux. Mais présentement, le fait divers, c'est qu'il y a présentement une tique qui, présentement, s'est rajoutée dans tout le phénomène des secs au Québec, qui, lorsqu'on vous fait piquer plus qu'une fois, ils disent au moins une dizaine de fois.
Ah ben. Elle va peut-être devenir plus puissante avec les années.
Ben c'est ça. Si on se fait piquer souvent, quelqu'un qui va souvent dans le bois, puis c'est une tique qui est inoffensive à part ça. On l'enlève, puis bon, c'est pas... Elle est assez évidente. C'est une tique qui est rouge, et c'est seulement les femelles qui piquent. Une tique qui est rouge avec une petite tache blanche. C'est pour ça qu'ils l'appellent étoilée. Donc, c'est une tique étoilée. Si vous la voyez, bon... Peut-être que vous ne la verrez pas vite de même, là. Mais il reste que, curieusement, c'est une nouvelle tique qui se rajoute qui, lorsqu'on s'est piqué plusieurs fois, peut créer une espèce de mémoire immunitaire qui fait que notre corps va reconnaître une viande comme étant un corps étranger parce que la salive de cette tique-là a comme modifié ou programmé votre système immunitaire à devenir réactif à de la viande. Donc, il y a présentement, il ne faut pas s'alarmer, là, je vous dis, c'est un fait divers, mais il y a une personne recensée aux États-Unis qui est décédée de ça. Qui est décédé des suites d'une piqûre ou de plusieurs piqûres et qui a fait un choc anaphylactique sévère après avoir mangé un burger. Ils se sont rendus compte que cette personne-là avait développé des anticorps qui rendaient son corps intolérant, ou du moins intolérant à toute forme de viande.
Mais il doit avoir comme... tu sais, je présume que c'est comme un peu tout nouveau, fait qu'on n'a pas nécessairement de traitement, mais lorsqu'on se fait piquer par une tique, tu sais, quelqu'un qui nous écrit par texto, j'ai une amie qui travaille aux États-Unis dans le transport qui a ces symptômes-là, où on peut se faire tester. Moi, mon père s'est fait piquer par une tique sur l'épaule il y a quelques semaines. Il est allé à la pharmacie dans les 24 heures, ils ont observé la plaie, puis ils ont dit, OK, vous êtes quand même correct, oui. Mais on lui a donné... Des antibiotiques oui. pour prévenir.
Exactement. Pour la maladie de Lyme, lorsqu'on le prend en avance, en prophylaxie, il faut penser, si on revient à la tique, la maladie de Lyme ou de Lyme, tout dépend pour qui qu'il dit, en tant que tel, il faut que la tique ait été en contact pendant quasiment une journée de temps, là, 24 heures puis plantée.
Je pense que ça crée comme une espèce de cible hein, autour
ah,
de
oui, c'est assez un halo, là, un halo d'infection rouge autour de la piqûre. Mais c'est sûr que si on n'a aucune idée depuis quand on s'est fait piquer, on se réveille un matin, voyons, elle est encore là, elle. Mais là, c'est sûr qu'il faut les consulter parce qu'il ne faut pas attendre de savoir si vous avez transmis la maladie de Lyme ou pas parce que ce n'est pas garanti que ce n'est pas toutes les tiques qui sont porteurs de cette maladie-là, de cette bactérie-là.
C'est comme pas tous les moustiques qui ont la malaria.
Ben, exactement. Ça, le botulisme, ces choses-là, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Mais il reste que... que je voulais dire, c'est que lorsque les gens sont piqués, ben prenez pas de chance. Comme je dis, allez voir votre pharmacien, allez voir un médecin pour qu'il vous donne des antibiotiques en prophylaxie, donc qui va éliminer cette bactérie-là, la Bortorella, j'oublie son nom, là, qui va faire en sorte qu'elle va devenir systémique. Et on sait que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui prend beaucoup de mois avant de se déclarer là, vraiment malaisante.
Il y a des gens qui passent des tests, puis des tests, puis des tests, parce qu'ils ont des problèmes neurologiques. Puis oui. Souvent, les gens pensent c'est une maladie orpheline, mais finalement, c'était la maladie de Lyme.
Oui, parce que les gens ne pensent pas à ça automatiquement.
Même les médecins aussi n'étaient pas tant outillés là, jusqu'à là, même pas 10 ans.
Mais là, aujourd'hui, il y a des tests qui sont plus évidents à vérifier si notre corps dégage des anticorps contre la maladie de Lyme. Donc, on peut facilement le diagnostiquer. Mais le problème, c'est de dire, c'est que je suis porteur depuis quand? Plus on est porteur depuis longtemps, plus que là, la maladie va créer des problèmes beaucoup plus articulaires, des problèmes que les gens ont de la misère à marcher, de l'arthrite sévère. Donc, ça devient même intolérable le mal que ça fait, qui fait que même des gens, il y a vu des gens qui ont demandé l'aide médicale à mourir à cause que la maladie de Lyme était souffrante pour eux.
Puis c'est à vie maintenant, tu sais.
Oh oui, c'est...
On parle, c'est quoi, c'est l'année dernière, Mélanie, Avril Lavigne, qui était avec Simple Plan. Il y a des gens qui disent, oh, elle n'avait pas l'air...
Elle était mollo.
Elle était mollo sur scène. Elle a la maladie de Lyme, justement, tu sais. Puis elle est pognée avec ça.
C'est ça. T'es comme pognée, comme systémique, là. Autrement dit, là, elle s'est bien installée. Puis bien souvent, elle va sans être nécessairement mortelle, là, c'est des maladies qui vont vous donner de la misère pendant plusieurs années et très souffrantes, surtout au niveau articulaire. Donc, ça rend les gens beaucoup plus mollo en tant que tel là, à la longue de l'avoir. Mais il reste que, comme je vous dis, fait d'hiver avec une nouvelle tique qui... va peut-être nous incommoder un tôt ou tard.
Surveillez vos animaux aussi.
Oui, il faut absolument. Les petits traitements, là, au moins. Moi, ça m'a coûté 100 $. J'ai mes traitements pour 3 mois pour mon petit Jameson. Une petite coupe dans le cou. Puis,
oui, tu mets ça avant d'aller dans le bois, traitement préventif. Là, ça vaut la peine. Oui,
ça vaut la peine. Marc Hamilton, 20 minutes, ça a passé trop vite.
J'avais d'autres sujets, mais écoute, ça sera le prochain.
Oui, c'est sûr. Tu es toujours le bienvenu. Même au Stade Canac, là, si tu veux venir avec ta DeLorean.
Oui, mais c'est quand, ton Comic-Con?
C'est le 15 août. Samedi, le 15 août.
Écoute, le 15 août, je suis ici le 15 août.
On s'en reparlera. Ça avait bien pogné parce que Raymond Boisvert, qui est le directeur des relations internationales, il ressemble au Doc Brown.
Ça tombe bon.
Raymond, dans la DeLorean à Marc, ça avait fait un beau souvenir à Back to the
absolument.
Future.
Absolument.
Marc Hamilton, merci encore.
Merci à vous autres.
Bonne fin d'été. Nous, on s'arrête quelques instants. Au retour, on poursuit ce show-là. On est déjà à mi-chemin jusqu'à 18h. C'est le retour de Radio X en vacances avec l'équipe E, Pee-wee, Mélanie, et Louis, stay tuned.
Le retour de Radio X. Radio X.